Salut, ici Cathy Alexandra et vous écoutez le balado Rassemblons-nous. Donc aujourd'hui, je suis très contente de recevoir avec moi Clotilde Banuls. C'est comme ça qu'on prononce ton nom?
Ouais, c'est ça, exact.
Parfait. qui travaille pour le CANA. Alors, Clotilde est intervenante communautaire, scolaire, interculturelle. Explique-nous, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire, intervenante communautaire, scolaire, interculturelle?
Ouais. Mais en fait, déjà, c'est plus intervenante communautaire, scolaire, interculturelle, c'est intervenante communautaire, interculturelle, scolaire.
Ah, OK.
C'est la même chose, mais c'est différent dans le sens où, quand j'ai commencé à intervenir au CANA, j'étais XI, donc c'est le sigle de scolaire en premier. C'était vraiment plus un mandat un petit peu différent, mais similaire quand même. C'est juste qu'aujourd'hui, le ICI scolaire, c'est vraiment un mandat du MIFI, c'est un projet pilote. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de faire de l'intervention auprès des personnes nouvellement arrivées, auprès des familles, auprès des parents dont les enfants sont en âge scolaire dans le contexte de l'école primaire. Et puis, c'est vraiment de les accompagner dans la scolarité de leurs enfants, vraiment les sensibiliser aux attentes de l'école. Et puis aussi, dans le milieu scolaire, faire comprendre un petit peu la réalité des familles immigrantes au milieu scolaire. Voilà, pour la petite précision.
Parfait. Puis, dans le fond, la différence entre ce que c'était avant puis maintenant, c'est quoi les grandes lignes qui diffèrent?
Mettons que maintenant, il faut que je fasse davantage d'activités collectives. Donc, y a cette partie-là qui est un peu plus prenante, ou en tout cas, c'est une adaptation que je dois faire un peu dans mon mandat. Puis aussi, pour le moment, la manière dont c'est fait, le mandat des ICI, donc tu sais, il y a des ICI scolaires, mais il y a aussi des ICI santé, il y a des ICI jeunesse, d'où ça se décline dans plusieurs, domaines pour une population un petit peu différente. Mm-hmm. Excuse-moi, j'ai oublié de ce que je disais, la différence.
Ouais,
c'est ça. C'est sûr que le mandat tel qu'il est fait en ce moment, ça exclut. Je pense je m'aventure pas trop à dire que ça exclut. Ça exclut quand même une partie de la population nouvellement arrivée. C'est les demandeurs d'asile sont pas vraiment éligibles à nos services. Ça veut pas dire qu'on donne pas le service. On donne le service pareil, mais ils rentrent pas vraiment dans ces cases-là. Donc, c'est vraiment le CANA qui va couvrir un petit peu les heures qu'on passe à faire le service pour les demandeurs d'asile. Donc, ça va être vraiment tous les autres statuts d'immigration. Donc, tu sais, des résidents permanents, des personnes, des travailleurs temporaires, tu sais, des étudiants internationaux dont les enfants seraient à l'école, mettons. Et puis, parfois, ça peut être même des citoyens. Ils sont devenus citoyens, mais il y a toujours des enjeux liés à l'immigration qui sont présents. Donc, voilà. Donc, ça couvre quand même une grosse partie de la population, mais c'est vrai que les demandeurs d'asile ne sont pas éligibles au service des ICI. Mais c'est ça. Après, c'est chaque organisme qui essaye de le faire de la manière qu'il peut, là, mais il y a un enjeu par rapport à l'admissibilité des statuts.
OK. Puis quand tu dis que tu accompagnes les... En fait, est-ce qu'il y a une tranche d'âge avec qui tu...
Absolument.
Travail.
Ouais, en fait, je dirais que c'est vraiment la porte d'entrée, l'âge, parce que les familles que j'accompagne, il faut vraiment qu'il y ait au moins un enfant qui soit en âge scolaire primaire, donc ça va être 5 ans à 12 ans. Mais tu sais, si y a un plus petit ou un plus grand, nous on va prendre vraiment le dossier de la famille au complet, donc c'est vraiment une porte d'entrée. Et puis moi, je travaille donc dans une école primaire du quartier, donc à Untic, dans Sohoré-Collet, à l'école Saint-Martyr canadien. C'est une très grosse école, c'est 600 élèves, plus de 600 élèves pour une école primaire, là, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment c'est assez gros. Puis ils ont un gros point de service d'accueil, de classe d'accueil. Il y a 8 classes d'accueil cette année. Donc, ça fait plus de 100 élèves sur 600 en classe d'accueil. Il faut imaginer qu'en plus, en dehors de ces 8 classes d'accueil, c'est des classes régulières, mais il y a aussi une grande partie de la population qui est ici de l'immigration, première et deuxième génération. Donc, les services, ils sont évidemment pour eux aussi. Donc, voilà.
Ok, et puis, dans le fond, quand tu est-ce que tu es assigné à certaines familles? Mm-hmm. Puis, à ce moment-là, est-ce que ton travail, c'est auprès des enfants seulement ou tu rencontres aussi les parents pour les intégrer et tout ça? Comment ça fonctionne?
Ouais, en fait, c'est surtout les parents. Okay. Plus que les enfants. D'ailleurs, moi, je fais pas d'intervention. Ça peut arriver que j'en fasse ponctuellement, mais mon interlocuteur premier, c'est vraiment le parent.
Ah, ok.
J'ai pas un mandat de, tu sais, psychoéducation ou éducatrice, etc. C'est pas du tout mon rôle. Mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les parents, dont les enfants. Sont à l'école.
Ok, ok.
Et donc moi c'est ça, je travaille en particulier donc dans cette école là. Comment est-ce que ça se passe? Déjà moi je suis présente lors des entrées. Tu sais, en classe d'accueil il y a des entrées un peu tout au long de l'année en fonction des départs, des arrivées. Donc moi j'accueille les parents avec l'école lors du premier jour. Donc on va vraiment expliquer ensemble comment est-ce que ça fonctionne. On va présenter les services du canard, on va présenter les services d'ici scolaire et aussi plein de ressources du quartier, donc vraiment pour essayer de donner le maximum d'informations à la famille, les ressourcer. Et puis après, donc là, ils ont mon contact. Donc soit ils vont me recontacter parce qu'ils ont un besoin. Parfois, ça peut être une question vraiment ponctuelle, tu sais, sur un besoin d'immigration. Puis en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres besoins. Puis ça va me faire plaisir de les accompagner là-dedans. Sinon, y en a, ça va être l'école qui va me les référer. Donc mettons, l'enfant, ça fait quelques semaines qu'il est scolarisé, un mois, deux mois, même parfois plusieurs années. Puis là, il y a quelque chose qui se passe où vraiment on voit que la famille, peut-être que ça serait aidant qu'elle soit, tu sais, ressourcée, on lui donne de l'information. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que tu sais, je vais faire pourquoi pas une première rencontre avec le parent. Parfois, c'est individuel. Parfois, ça se passe avec l'enseignant, avec l'éducateur, avec, tu sais, même parfois le secrétariat, la direction. Et puis là, on va voir c'est quoi les besoins, moi, comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux leur apporter, etc. Donc, après, oui, il y a des dossiers, tu sais, qui sont attitrés, là, si je peux dire, des familles où il y aura vraiment un suivi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, etc. Il n'y a pas de péremption à mes services. Tu sais, moi, il y a des familles, ça fait deux ans que j'interviens au CANAP, puis ça fait deux ans qu'on fait le suivi, et c'est pas forcément un suivi très, très accru, mais ça va être de l'information ponctuelle, tu sais, des rendez-vous, on va voir comment ça se passe. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a un besoin pour quelque chose, puis quelques mois, il y a un besoin pour autre chose. Donc, moi, je suis vraiment à leur disposition par rapport à ça. Puis, parfois, il y a une famille qui va mobiliser, tu sais, 90% de mon temps pendant quelques semaines. Puis là, les autres dossiers, ils vont être un peu plus en second plan. Puis après, tu sais, ça va tourner. Puis parfois, c'est un peu plus équilibré. Donc, on y va vraiment avec le besoin, l'ordre d'importance et d'urgence aussi. Donc, ça, c'est vraiment un exercice qu'il faut que je fasse dans mon travail.
Ok, j'ai beaucoup de questions qui me viennent en tête, mais juste avant, on va juste aussi, je ne sais pas si j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais en fait, de te présenter en fait, à nos auditeurs, en fait, quelles sont tes études, comment tu es arrivée en fait, au CANA, explique-nous ça.
Ben, déjà, moi, j'ai fait un bac, rien à voir, oui et non, c'est-à-dire que j'ai fait un bac en études hispaniques pendant, il y a déjà quelques années, là, mais, et j'ai continué à la maîtrise aussi en études hispaniques. Et en fait, quand j'ai terminé la maîtrise, un ami travaillait au CANA, puis il m'a dit « Oh, il y a un poste qui se libère pour toi », puis je pense que ça serait vraiment un bon fit. Et moi, je m'imaginais pas. En fait, je pense que j'avais jamais vraiment considéré, tu sais, mettons, travailler dans un domaine de travail social. C'était même pas quelque chose qui faisait vraiment partie de quelque chose auquel j'avais pensé. Moi, je trouvais que c'était quand même intéressant avec mon background, étant donné que, tu sais, je parlais déjà le français, anglais, espagnol, puis que j'avais pris un cours à l'université quand même sur l'immigration forcée. Donc, okay. ça, j'avais quand même des connaissances dans le domaine.
Et puis, dans quelle université?
Ouais, j'ai étudié à Concordia.
Ok.
Ouais. Ouais.
Oh, je connaissais pas. C'est la première fois que j'entends parler
cours
de ce
géo. Cours-là. Ouais, okay. C'était un cours de géo. D'ailleurs, la prof était excellente. Vraiment, j'ai vraiment recommandé. C'est ça, on avait eu. Ça avait vraiment été. On avait eu plein d'intervenants vraiment très qualifiés qui étaient venus parler. Je pense qu'il y avait une personne de UNHCR qui était venue parler, là, tu sais, l'instance des Nations Unies pour les réfugiés. Okay. Il y avait une prof vraiment plus en sciences politiques spécialisée sur les politiques d'immigration au Québec, au Canada, mais au Québec, qui était venue aussi faire des interventions. Donc, ça a vraiment été très riche. Donc, c'était quand même quelque chose qui me parlait, là, déjà. Tu sais, mon histoire personnelle et familiale aussi. Moi, je pense qu'on l'attend à mon accent. Je suis française, mais je suis d'origine italienne. Ma grand-mère, elle a immigré en France suite à la guerre. Donc, tu sais, c'est vraiment des notions, moi, l'immigration, sur lesquelles je suis sensible. Et puis, c'est ça aussi mon intérêt pour le monde hispanique. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on aborde là dans des études hispaniques, la question de l'immigration, notamment en Amérique latine. J'ai vécu aussi pendant un temps, donc c'est quelque chose qui me parlait. Donc, je pense que j'avais déjà une ouverture. C'est vraiment le domaine du travail social que j'ai découvert dans mon poste et pour lequel j'ai vraiment développé un goût important, quoi, un intérêt pour le travail social.
Puis donc, tu dis que ouais. Tu as habité en Amérique du Sud?
Ouais.
À quel endroit?
En Colombie, ouais, à Bogota.
En Colombie?
Ouais.
Ah. Et ça, c'était dans le cadre
des
études?
Ouais, je suis allée pendant mon bac, puis je suis retournée plusieurs fois. Et en fait, j'ai rencontré à Montréal mon conjoint aussi, après être allée en Colombie, qui est colombien d'ailleurs. Bon, on me l'a présenté parce que j'étais déjà allée en Colombie et que je parlais espagnol, le truc vraiment débile, mais c'est comme quoi ça a marché. Mais, donc, je suis retournée aussi avec lui plusieurs fois. Donc, il y a quand même un lien particulier avec...
Lui a émigré de Colombie ici.
Exact, ouais.
Puis en fait, moi, c'est une question que j'aime demander parce que souvent, on dirait que pour les gens qui ne l'ont pas vécu, ou on dirait qu'on a une image assez carrée de qu'est-ce que c'est l'immigration et on suppose que c'est la même chose pour tout le monde. Donc moi, j'aime ça demander, toi, c'est quoi ton rapport avec l'immigration? Est-ce que c'est quelque chose de positif, de négatif? C'est quoi les sentiments qui sont associés pour toi à l'immigration?
Oh là là, c'est une grosse question philosophique. Par où commencer? je sais pas, moi je le vois vraiment comme quelque chose de déjà justement de pas du tout comme ce que tu décris. Je pense que je sais pas si c'est lié à mon travail ou déjà aux réflexions que j'avais déjà à l'université, etc. Mais je pense que j'ai jamais vu ça comme quelque chose de peut-être d'uniforme ou je pense qu'il y a autant de relations à l'immigration ou en tout cas de conception de l'immigration qu'il y a de personnes qui émigrent. Moi, ce que je vois, c'est que c'est aussi une question de privilège. Là, moi, comme j'ai dit tantôt, là, je suis française, j'ai un passeport français. C'est sûr que c'est très aidant pour immigrer, pour voyager, pour traverser des frontières. Et ça, je pense que j'ai toujours été très consciente que tu sais, c'était pas, j'avais pas le même droit que tout le monde sur cette terre à me déplacer, en fait. Moi je conçois l'immigration et la mobilité dans un système mondial avec des hiérarchies, avec c'est très très inégal. Ouais. Donc et puis de la même manière que tu sais une personne mettons tu sais qui vient d'un pays en développement ou enfin c'est des termes un peu réducteur. Mais en tout cas des pays tu sais qui font pas partie tu sais des plus grands tu sais des plus grandes puissances mondiales là mais il pourrait y avoir une personne tu sais extrêmement privilégiée qui va pouvoir voyager plus facilement qu'une autre tu sais genre juste l'accessibilité à avoir un passeport à avoir les moyens d'avoir un passeport à avoir les moyens de tu sais s'acheter un billet d'avion de pouvoir demander un visa d'avoir la littératie pour demander un visa tu sais se renseigner renseigner sur les programmes d'immigration. Donc, c'est pour moi, c'est aussi quelque chose qui, tu sais, va s'éprouver d'une manière globale. C'est-à-dire, par exemple, une personne, tu sais, qui vient d'un pays très développé, je sais pas moi, une personne qui vient du Danemark avec une personne, tu sais, qui viendrait du Sénégal. Et de la même manière qu'au Sénégal, il va y avoir une personne beaucoup plus privilégiée que d'autres aussi. Donc, ça, je pense que c'est aussi un privilège, un cliché contre lequel on, moi en tant que professionnelle dans le milieu de l'immigration, ça fait vraiment partie de la sensibilisation que je fais. C'est que en fait, tu sais, le portrait de l'immigration est extrêmement varié, puis on peut pas supposer que tu sais, une personne elle a vécu telle ou telle chose si elle vient de tel pays, ouais, ou quoi, tu sais. Donc, il y a vraiment, c'est ça, je pense qu'il faut avoir en tête que, tu sais, la personne, elle est devant toi avec toute la complexité d'un parcours migratoire, son origine sociale, comment est-ce qu'elle a grandi, à quoi elle avait accès. Ouais. Puis après, tu sais, sa personnalité, tout ça. Enfin, je veux dire, donc, pour moi, l'immigration, c'est ça, c'est complexe, protéiforme, de la même manière que toute la belle diversité qu'on a sur Terre. Donc, voilà.
Mais moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. En fait, quand je te posais la question, c'était plutôt parce que c'est dans les discours, des fois, qu'on entend dans les médias, nos gouvernements. Ouais, on dit les immigrants, l'immigration, les demandeurs d'asile. Ouais. Et c'est tellement tout le temps généralisé. Ouais. Puis après, c'est que justement, ou même, si on va dire, les gens de tel pays. Mais après, les personnes de tel pays, comme tu dis, tu sais, tout dépendant de sa classe sociale, tout dépendant de la raison pour laquelle elle a décidé de quitter. Absolument. Est-ce que c'était un choix? Est-ce qu'elle était forcée? Est-ce que c'était une situation familiale, politique, économique? Il y a tellement de diversité dans la diversité. Puis ça, je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas assez. Puis d'où ma question aussi. Pour ça, j'aime ouvrir cette porte-là pour qu'on en entende plus, effectivement, toutes les histoires sont différentes et même le rapport, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant qu'un des premiers mots que tu as utilisé, c'est le privilège, tu sais. Puis pour certaines personnes, c'est des fois quand justement c'est obligé. Pour eux, l'immigration n'est pas nécessairement vue comme ça. Donc c'est important aussi de voir ce côté-là aussi.
Ouais, notamment dans mon pays, etc. Et notamment dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Je pense que, tu sais, j'avais des amis dont les parents, c'était des expatriés. Oh mon Dieu, aujourd'hui, entendre ce mot, je trouve ça absolument insupportable, mais c'est cette idée que t'immigres pas, en fait, tu vas travailler quelques années à l'étranger avec tous les privilèges du monde, tu vas habiter dans des condos avec vachement de sécurité, une personne qui va t'aider, une employée de maison qui va t'aider dans toutes les tâches, et peut-être même des privilèges que t'avais même pas dans ton pays, par exemple la France, parce que ça coûte très cher d'avoir quelqu'un qui t'aide, etc. Et donc j'avais des amis, moi, qui dont les parents, c'était ça, tu sais, ils allaient 5 ans à Singapour, 4 ans je sais pas dans quel autre pays, puis tu sais, c'était pas de l'immigration. D'ailleurs, je pense qu'ils sont en contact avec d'autres expatriés du monde global, tu sais, où ils vont dans des écoles privées internationales, ou je sais pas moi, par exemple des lycées français, là, donc tu sais, c'est
après ils reviennent au pays,
ouais, ils reviennent au pays où ils vont se faire envoyer ailleurs. Mais et tu sais, moi, quand je parle de privilèges, c'est aussi à ça que je me réfère. C'est que tu sais, c'est des personnes qui vont aller travailler ailleurs, un peu comme des travailleurs temporaires, tu sais, mais avec un privilège sans nom, en fait.
Ils sont accueillis les bras ouverts,
ils sont accueillis les bras ouverts, et tout de suite ils vont être insérés dans des milieux, dans des cercles très très fermés, avec tous les privilèges possibles. C'est assez c'est assez fou. Mais donc oui, c'est t'imagines, c'est, et puis c'est tout clé en main, tu sais, hein. Parfois tu peux même avoir un appartement de fonction, une voiture de fonction, tes enfants ils ont déjà une place dans l'école internationale du coin, tu sais, il y a un chauffeur, ce genre de truc, quoi. Donc c'est hallucinant, tu sais, tu te dis ouais on part pas tous avec les mêmes chances.
Parfait. Puis maintenant, j'aimerais revenir au Canada. Ouais. Donc, en fait, toi, t'es un peu tombé là-dedans par accident, si je comprends bien. Mais ensuite, qu'est-ce qui t'a incité à rester, en fait? Là, ça fait combien de temps, en fait, que tu travailles pour le Canada?
Un peu plus de 2 ans, ouais.
OK.
Je pense simplement déjà que j'ai vraiment pris goût du contact avec les gens. Puis, je pense que j'ai eu de la chance. Déjà, le Cana est à mon sens, c'est vraiment un bel organisme. On a une super belle direction. Je considère vraiment que j'ai de la chance parce que mes collègues, c'est toutes des personnes avec des parcours quand même différents et. Je sais pas comment est-ce qu'ils font, mais je trouve qu'à chaque fois, il y a une nouvelle personne qui entre dans l'équipe et à chaque fois, c'est une super belle personne qui apporte vraiment sa pierre à l'édifice au Cana. Donc, déjà, je suis très, très chanceuse. Je trouve que, en plus, on a une grande liberté, tout ça. Donc, je pense que le milieu, déjà, il est propice à s'épanouir. Et puis ensuite, moi, dans l'école dans laquelle j'ai été, dans laquelle je travaille en ce moment aussi, je suis extrêmement choyée. C'est pas tous les milieux scolaires. Je sais parce que j'ai fait, j'en ai vu d'autres aussi. Là, j'ai été formée notamment dans d'autres écoles. Le milieu est très très ouvert. Ils ont déjà une sensibilité, pour la population, en contexte d'immigration, etc. Donc, je suis arrivée déjà dans un milieu, dans un beau milieu. On m'a tout de suite fait de la place et on fait même un bureau. Je dirais, si tu te rends compte, mais dans une école, me trouver un local, c'était déjà, c'était extraordinaire. Donc c'est ça. Et puis ensuite, je trouve ça très enrichissant d'accompagner ces familles-là. Moi, j'essaie toujours de me poser des questions. Est-ce que mon approche, elle est correcte? Est-ce que il y a des choses que je peux apporter davantage à la famille que je suis, etc. Pour l'aider là dans son parcours d'immigration. Donc ça c'est quelque chose aussi vraiment d'enrichissant. Et puis le milieu communautaire à Montréal est extrêmement riche. Donc c'est vraiment agréable aussi de faire de la concertation. Tantôt je m'en vais à la table de concertation jeunesse d'Antique pour un projet qu'on essaye de mobiliser la communauté pour faire un projet d'alimentation scolaire universelle dans le quartier. Donc tu vois, il y a vraiment des choses intéressantes qui s'y passent. Puis on œuvre tous ensemble pour la justice sociale à mon sens. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que tu as vraiment l'impression de participer à quelque chose de plus grand pour la justice sociale. C'est quand même extraordinaire. Et après tu fais des rencontres qui sont vraiment significatives pour toi, même si dans le cadre professionnel il y a des familles avec qui il y aura un lien particulier. C'est sûr, c'est un lien professionnel, mais on s'apporte quand même mutuellement. Je crois vraiment à ça. Donc voilà, moi, je toutes ces raisons qui fait que je suis très heureuse dans ce que je fais et que je suis restée. Donc ça répond à ta question.
Oui. Puis aussi, c'est une question que j'ai demandé aussi au premier épisode à tout le monde, en fait. Et ça peut être très libre, ça peut être autant personnel qu'au niveau professionnel. Mais j'ai demandé à chacun, pour toi, qu'est-ce que le Cana signifie pour toi dans ta vie en ce moment?
Est-ce que c'est
seulement un employeur ou c'est... Qu'est-ce que ça signifie?
Ben, je pense que c'est plusieurs choses. C'est sûr que c'est mon travail, là, évidemment, faut pas... c'est sûr, c'est mon travail, mais c'est aussi un milieu de vie. Et puis c'est aussi, je le vois un petit peu comme un carrefour aussi. J'aime bien le Cana, ça veut dire carrefour, mais le carrefour de vos arrivants. Mais je le vois aussi comme un carrefour de rencontres. J'ai rencontré, c'est ça, tellement personnes extraordinaires à travers le Cana. Donc je le vois comme un carrefour de vie, un carrefour de rencontres aussi. Donc c'est sûr, c'est un lieu qui m'est cher.
Parfait, merci. Puis bon, retournons en fait comme intervenante.
Ouais.
Dans le fond, pourquoi une famille, comment ça fonctionne en fait dans le concret? Quand la famille arrive, qui la met en contact avec toi? Est-ce que c'est eux qui vont au Cana? Comment ça fonctionne ce premier contact-là avec les familles?
Ben c'est ça, moi dans mon cas, comme je te disais tantôt, je travaille dans une école, donc ça va vraiment être l'école qui, grâce à différentes circonstances, on va me référer à la famille parce qu'il y a un enjeu qui est vécu. Donc pour t'en nommer quelques-uns, il y a un gros taux d'absentéisme, on a du mal à rejoindre les parents.
Okay.
Ensuite ça peut être, en fait on voit que il y a des gros grosses difficultés scolaires, puis peut-être le parent il est plus ou moins ouvert à recevoir de l'aide ou à en tout cas qu'on lui montre les ressources du quartier. Parfois ça va être en fait on sent que l'enfant parfois il parle aussi, il va dire que il y a des enjeux à la maison ou parfois il y a des choses il y a des choses qui se passent à l'école, mais en fait l'école c'est vraiment c'est une porte d'entrée. En fait, tout enfant mineur, quoi, en âge scolaire, il va à l'école. Donc, les familles, tu sais, qui n'ont pas été rejointes par des services, notamment les nouveaux arrivants, c'est sûr que il y a plein de choses qui sont différentes chez eux. L'école va être un beau milieu pour pouvoir les rejoindre, ces familles-là. Et moi, dans mon mandat, c'est vraiment la troisième ligne. Donc, c'est aller rejoindre les familles avec plusieurs facteurs de vulnérabilité. L'école, c'est un très beau milieu, en fait, pour voir justement ces facteurs de vulnérabilité-là. C'est là que moi, effectivement, je peux intervenir. Mais généralement, ça va être l'enseignant qui peut venir me voir en me disant « Écoute, Clotilde, moi, cet élève-là, dans ma classe, j'ai quand même l'impression que il y a des enjeux par rapport, j'en sais rien, il y a des gestes très grossiers, il fait ça peut être quelque chose sur le comportement ou ça peut être quelque chose de très anodin en fait, comme l'ami il a intimidé tel autre ami et en fait quand on creuse un peu on voit que le petit garçon en fait ça va pas chez lui, ses parents peut-être qu'ils sont en train de se séparer et en fait peut-être que j'en sais rien, moi il y a une j'invente des trucs là, mais qu'il y a une résidence permanente, la maman s'est faite parrainer et en fait elle sait pas trop comment est-ce que ça va fonctionner pour elle par rapport à son statut si elle se sépare de monsieur et qu'en fait elle est encore pendant ce délai de carence de 3 ans où le monsieur il a la responsabilité de maman, donc c'est là que nous en fait on va entrer peut-être sur quelque chose de très anecdotique et en fait il y a plein de besoins à la maison, donc voilà. Donc, c'est encore une fois, ça va vraiment varier. La première chose, c'est vraiment de s'asseoir, puis de regarder okay, qu'est-ce qui se passe déjà. Puis après, on va creuser, on va offrir.
Donc, c'est vraiment plus personnalisé que.
Oui, complètement.
C'est vraiment du cas par cas avec les familles qui te sont attribuées, en fait, par l'école.
Oui, qui me sont attribuées par l'école. Encore une fois, c'est l'école peut me référer, mais moi aussi, comme j'accueille les familles le premier jour de leur entrée, eux aussi ils ont mon contact, donc parfois c'est eux qui vont me recontacter par la suite. Puis en plus souvent j'ai présenté les services, je leur ai présenté plein de ressources et ils savent que moi je suis peut-être la personne à contacter s'ils ont besoin un besoin externe en dehors à l'école, etc. Donc ou parfois comme ils voient que moi j'ai WhatsApp, ça paraît vraiment idiot, mais comme le fait que moi j'ai un cellulaire professionnel sur lequel j'utilise WhatsApp, les familles migrantes ils utilisent beaucoup WhatsApp et c'est un bel outil en fait, parce que les familles elles vont te contacter même pendant la nuit. Mais évidemment je regarde pas mon cellulaire professionnel pendant la nuit, mais dans le sens où tôt le matin je vais voir le message d'une maman qui me dit que son fils est malade puis qu'elle sait pas trop où l'emmener à l'hôpital ou ce genre de choses, donc en fait je deviens une personne un peu ressource qui vont contacter en cas de problème. Là, évidemment s'il y a une urgence, pas moi qui vais appeler, là c'est 911, mais s'il y a quelque chose puis ils sont pas sûrs, moi ça va vraiment me faire plaisir de leur donner de l'information comme ça. Donc oui, c'est très très à la carte, c'est à la carte, c'est personnalisé, c'est multidimensionnel, c'est donc
et déjà WhatsApp ça crée déjà un lien plus familier, t'sais.
Ouais, exact, c'est sûr, mais
c'est direct aussi,
ouais, t'sais. Non, c'est sûr, et puis je pense que la base de l'intervention dans mon poste, mais je pense dans le travail social, là, c'est vraiment le lien de confiance. Mm-hmm. Et puis je pense qu'effectivement, WhatsApp, texte, etc., ça brise quelque chose, là, ça brise un peu la formalité et tout. Donc, puis tu sais, ils peuvent te contacter à n'importe quelle heure, dans le sens où moi je leur dis que tu sais, je travaille pendant la journée, mais s'ils veulent m'envoyer un message à 20h, je veux dire, moi ça me dérange pas, là, je prendrai mes messages le lendemain. Donc c'est aussi, ouais, c'est ça, c'est un bel outil de travail. Ouais, ça paraît tout bête, mais je sais pas si tu le sais, là, mais comme tu sais, la plupart des travailleurs sociaux, ils ont pas de salle de travail, là. Ils ont un poste avec une extension, puis c'est différent, hein.
Ouais.
Il y a des infirmières qui ont peut-être un décel, là, mais je ne suis pas trop sûre. Oh. Ouais. Non, pas. Mais des infirmières ouais. qui font des suivis à domicile, ce genre de truc.
Ah, peut-être.
Ouais.
Puis, comment est-ce que tu verrais ton apport? Puis, c'est parce que j'entendais ça à la radio aussi en venant ici, par rapport à l'intégration des immigrants. Comment tu vois dans le concret, dans ton travail, comment tu aides concrètement les gens à s'intégrer? Comment tu ressens ton apport aux familles? Est-ce qu'ils te le communiquent, ça? Est-ce que tu vois comment ton travail apporte à...
Ouais. C'est sûr que parfois, sur des choses beaucoup plus concrètes que d'autres, là, notamment moi, une des choses que je fais, c'est que j'encourage beaucoup les familles à se franciser, tu vois. C'est sûr qu'il y en a pour lesquels c'est pas vraiment le moment et tout quand je les rencontre, mais tu sais, petit à petit, il y en a beaucoup qui vont me solliciter pour s'inscrire à des cours de français. Donc, c'est sûr que la langue, c'est un facteur super important à l'intégration, mais après, ça va être effectivement, c'est quoi l'intégration aussi, tu sais. L'intégration, déjà il y a un énorme pas qui est fait lorsque leurs enfants ils sont inscrits à l'école. Ouais. Puis après ça va être que eux ils s'approprient le milieu de vie de leur enfant, donc l'école. Et l'école aussi, c'est un très très beau facteur d'intégration, parce que tu sais, ça peut être un lieu de rencontre avec d'autres enfants, d'autres amis de leurs enfants. Tu sais, il y a même un programme de bénévolat à l'école, si les parents ils ont envie de aller travailler, donner de leur temps quelques heures à la bibliothèque, c'est super aussi, là, ça permet de briser l'isolement. Donc moi je dirais que les familles que je rencontre avec plusieurs facteurs de vulnérabilité, ça peut être des familles avec dont l'intégration, si on peut l'appeler ça comme ça, ou en tout cas leur ils sont un peu plus isolés, donc déjà il faut essayer de briser cet isolement. Donc moi c'est sûr que au CANA on a plein de belles activités, donc je peux les référer à des activités qu'on offre au CANA, mais tu sais, il y a plein d'autres organismes qui offrent des très belles activités gratuites, etc. L'intégration, elle se passe par tellement de choses, la langue, le travail, l'école, se faire des amis d'ici, d'ailleurs. Puis tu sais, après parfois il y a des je connais une dame, ça fait 25 ans qu'elle est là, puis elle parle toujours pas le français. Et pourtant elle a pris des cours de français, mais tu sais, elle a jamais réussi à y arriver. Bah, pourtant elle est super bien intégrée.
Ouais,
là tu sais, elle est très très impliquée à l'église du quartier. Elle donne plein de ressources à d'autres immigrants. Tu sais, elle va dans un organisme pour personnes âgées immigrantes avec ses amis. Tu sais, c'est vraiment comme un rayon de soleil pour sa communauté. Elle est très très intégrée, mais tu sais, elle parle pas le français. Ouais. Et elle travaille auprès des personnes âgées, etc. C'est très belle intégration, à mon sens. C'est sûr que pour le MIFI, peut-être que pas génial, mais c'est vrai que ça serait super qu'elle parle français, mais ça serait peut-être mieux encore. Là, c'est déjà bien, tu sais, je veux dire, la personne a fait une différence dans sa communauté.
Parce qu'après, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme la question avec l'immigration, c'est que c'est tellement large, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire s'intégrer? Ouais. Parce que moi, par exemple, je suis née ici de parents chiliens. Moi, j'ai toujours parler français, mais est-ce que je me sentais intégrée dans la société québécoise? Pas vraiment, parce que j'avais aucun contact avec la culture québécoise vraiment. Je parlais espagnol à la maison. Puis moi, j'avais pas de service comme ça. J'ai pas vraiment été en contact autre que l'école, en apprenant comme les matières de l'école. Ouais. Des fois, je me dis, à cause de mon français, certaines personnes vont dire « Ah, toi, t'es totalement intégré. » Et pourtant, il y a d'autres personnes qui ont immigré ici, qui ont vécu moins de temps que moi au Québec, puis qui connaissent tout du Québec, de la culture. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment l'intégration? Je trouve que c'est large, puis comme l'identité, c'est pluriel.
Ouais, exact. Puis, tu sais, de la même manière, tu sais, une personne déjà francophone qui arrive au Québec, tu sais, je pense notamment... des Français qui, ou j'en sais rien, des personnes d'un autre pays francophone, la Belgique, ou même pas européen, il y a beaucoup de pays d'Afrique où on parle le français, puis ils arrivent ici, parlent déjà la langue, mais c'est pas pour autant que ils vont se sentir intégrés ou qu'ils vont avoir un sentiment d'appartenance avec le Québec, ou que ils vont travailler dans un milieu où il y a beaucoup de Québécois, je pense que c'est complexe l'intégration, puis c'est difficile à mesurer.
Ouais.
Puis en ce moment, on entend beaucoup que l'intégration, c'est à travers de la langue,
ouais.
Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mm-hmm. C'est beaucoup plus complexe que ça, tu sais.
Mais c'est aussi pour moi, des personnes comme toi, c'est que des fois, je trouve que quand on parle d'intégration, on met le fardeau sur les migrants. Tandis que, en fait, nous aussi, on a une part à jouer.
C'est aux migrants de s'adapter.
Exact, mais quelles sont les ressources qu'on lui donne pour l'aider à s'adapter? Ouais. Je trouve que des personnes comme toi qui travaillent ça contribue à ça. Puis d'ailleurs, pour clore l'épisode, j'aimerais te demander de nous partager, si tu peux, ça serait quoi, disons, un des meilleurs feedbacks que tu as reçu d'une famille que tu as aidée, ou une situation qui t'a marqué?
Moi, je pense à une en particulier, parce que quand c'est arrivé, c'est sûr que je m'étais... j'avais mesuré que ça avait été important pour la famille, mais ils me l'ont redit plus d'un an après. C'était une famille de demandeurs d'asile, justement, qui avait quitté leur pays à cause des enjeux de sécurité, des menaces de mort, etc. Et notamment, en fait, ils ont décidé de quitter leur pays quand ils ont reçu des menaces dirigées à leur enfant. Là, c'est là qu'ils ont dit non, c'est pas possible, on doit quitter. Tout de suite, moi, j'ai eu je me souviens, là, quand j'avais accueilli les parents le premier jour de la maternelle, on avait eu tout de suite un bon contact, etc. Donc les parents, ils avaient pris mon contact très tôt. Ils me demandaient des questions, c'est vraiment techniques sur l'école parfois, la boîte à lunch, ce genre de choses. Un jour, il m'appelle vraiment en panique, on attendait l'autobus, puis il est pas arrivé, notre fils, là. Tout de suite, ça a réveillé chez eux, je pense, un peu trop mal, là,
ouais.
Le truc de, c'est ça qu'ils redoutaient, là, c'est qu'un jour, ils viennent récupérer leur enfant à l'école, puis qu'il est pas là. Et donc, moi, j'ai vraiment compris ce que ça évoquait chez eux tout de suite, donc j'ai contacté l'école. C'est un peu compliqué ça arrive régulièrement, honnêtement, là, qu'il y ait un enfant qui se perd dans les autobus. Dans le sens où il y a souvent parfois surtout à Montréal, là, où c'est très tentaculaire les services d'autobus scolaires. Il y a des transferts souvent qui sont faits, puis ça peut arriver que un chauffeur d'autobus, il met le mauvais enfant dans le mauvais bus, puis c'est vraiment pas grave parce que l'enfant, il est identifié, puis il va être retourné à l'école éventuellement, là. C'est vraiment aux parents qui nous écoutent, faut pas paniquer. Et puis surtout, que en fait, le temps qu'on contacte le directeur qui contacte le système de transport, généralement l'enfant il est déjà retourné à l'école, parce que ça prend du temps, tout ça. Donc finalement, on a retrouvé le petit garçon, puis il a été retourné à l'école, puis tout s'est bien passé. Mais plusieurs mois plus tard, on a fait une activité avec les familles, même une année plus tard, on a fait une activité avec les familles, puis on faisait un tour de table, puis on disait un petit peu pourquoi est-ce qu'on était là, tout ça. Puis là, la famille, elle m'a nommé que quand eux, ils étaient arrivés, ça avait été très important pour eux que moi, j'étais là et que je les ai rassurés. Donc, ça avait été très touchant, parce que moi, ça m'est un peu sorti de la tête. Mais tu sais, parfois, c'est juste une petite chose comme ça.
Ouais, ça
déjà marche. c'est tu te dis que t'as déjà fait quelque chose de bien pour cette famille là et que ils sont vraiment reconnaissants. Donc c'est anodin, mais ça vaut beaucoup.
Oui. Et merci énormément pour ton partage, puis en fait pour tous tes mots. Donc, c'était vraiment un plaisir. Puis, on se retrouve dans un prochain épisode au Balado Rassemblons-nous. Merci beaucoup d'être à l'écoute.
Merci, bye-bye.
Ce balado a été produit avec la participation financière de la Direction régionale de santé publique. Le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants est un organisme à but non lucratif qui accompagne les personnes immigrantes en leur offrant gratuitement différents services individuels et activités collectives. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site Internet au canamtl.com.